10h20 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Ça bouge beaucoup cette semaine en politique fédérale. Ça avait beaucoup bougé quand même la semaine passée aussi. En fait, depuis le début de l'année, on n'a pas ben de break, j'ai envie de dire, en politique fédérale. Et quand on a envie de parler de ce qui se passe à Ottawa, ben on contacte Sandra Aubé, vice-présidente affaires fédérales chez TACT. Salut Sandra!
Salut!
Comment ça va?
Ça va bien, c'est quoi? Cool. On est jeudi, enfin, une autre semaine qui déboule en fou, puis l'actualité fédérale aussi. Fait que ça me fait plaisir d'être là.
Et ça va se poursuivre dans les prochains jours parce que Mark Carney part aujourd'hui en mission du côté de l'Inde. Qu'est-ce qu'on vise avec cette nouvelle mission-là? J'imagine qu'on est encore dans tout ce qui est diversifier notre économie et nos partenaires commerciaux et tout ça.
Oui, absolument. Puis il faut garder en tête que l'Inde, c'est un pays avec lequel le Canada a été en chicane dans les dernières années. Il y avait eu vraiment des éléments au niveau de la sécurité nationale, un citoyen canadien qui s'est fait tuer. Il y avait eu des accusations au Parlement d'ingérence au niveau de l'Inde dans ce dossier-là. Donc, extrêmement sensible, explosif, ça avait mené à des représailles diplomatiques, comme on avait eu des déplacements de personnel diplomatique. Fait qu'on revient de loin. Puis Mark Carney, depuis qu'il est arrivé, ce qu'on observe, c'est qu'il essaye de rebâtir des ponts avec d'autres pays où ça a été plus difficile, parce qu'on semble se dire on ne peut pas être en chicane avec tout le monde, puis on est en chicane avec notre meilleur ami présentement, notre meilleur ami, notre gros voisin, les États-Unis. Fait qu'on s'en va en Inde. On s'en va en Inde pourquoi? Pour rebâtir cette relation diplomatique-là. Il y a d'autres ministres qui y ont été, notamment, je pense, le ministre du Commerce international depuis l'arrivée du ministre Carney. Mais là, on s'en va avec, si je ne me trompe pas, là, les ministres qui y vont, c'est ministre du Commerce international, fait que Maninder Sidhu, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, puis le ministre François-Philippe Champagne, notre ministre des Finances, qui est aussi un deal maker, quelqu'un qui aime ça faire des deals puis qui connaît le business. Fait qu'il s'en va là avec ce monde-là et il s'en va aussi là-bas avec le plus récent transfuge conservateur, Matt Généroux, donc un autre qui s'en va sur le voyage, mais on s'en va là pour tisser des liens, c'est clair, avoir plein de rencontres. Le Canada essaye d'attirer des investissements étrangers diversifiés, pas juste des États-Unis, pas juste avoir du commerce dans les deux sens. Et le gouvernement du Canada travaille depuis longtemps, c'est pas juste un élément du gouvernement Carney, mais d'avoir un accord de commerce avec l'Inde. Ça va-tu se faire cette semaine? Ça va-tu se faire dans un an? Ce qu'on entend, c'est d'ici la prochaine année. Donc, clairement, on gère les attentes. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de recul dans ce dossier-là, mais clairement, on y va comme délégation limitée de ministres avec un angle économique, c'est ça qu'on va voir d'un bout à l'autre.
T'as nommé Sandra, Matt Généroux, puis tu sais, c'est comme drôle qu'il l'amène. On dirait que ça fait pas vraiment de sens. T'sais, tu l'as dit, c'est une délégation qui est très limitée. T'as les ministres, bon, importants quand on parle de commerce, puis t'amènes lui. C'est-tu juste un cadeau de... Tu sais, c'est niaiseux comme question, là. On dirait, je me dis, c'est ridicule, mais c'est-tu juste un cadeau de « Hey, t'as rejoint la gang, bravo, merci, voici ton petit cadeau en échange? »
Non, il faut voir ce que M. Généroux a fait dans le cadre de sa pratique professionnelle au gouvernement, notamment, dans l'opposition. Mais c'est quelqu'un qui suit le dossier économique, qui suit tous les éléments là, de commerce international, de diversification. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui débarque puis qui embarque sur le bras pour aller dans l'avion du premier ministre faire bonne figure. C'est quelqu'un qui a un propos, une expérience puis qui a creusé dans ces dossiers-là. D'ailleurs, quand on voyait un peu l'annonce très brève au niveau du transfuge, mais le langage qui était utilisé, puis je ne l'ai pas devant moi, mais moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, OK, il embarque comme ce gars-là, ce qui s'est négocié, c'est qu'il s'en vient donner un coup de main par rapport à la diversification économique. Comme clairement, il s'en va dans ce volet-là. Fait que de le voir, écoute, ça me faisait un petit clin d'œil. Je pensais à Michael Ma, l'autre transfuge le plus récent qui avait été du voyage du premier ministre, le gros voyage précédent qui l'avait amené notamment en Chine, notamment à Davos. Puis là, on en amène un autre. Fait que je pense qu'il y a un petit on te fait un clin d'œil, on te fait un faveur, t'es venu avec nous. Dans le cas de M. Généroux, clairement, il y a une contribution au-delà de ça.
Sandra Aubé, hier, plusieurs se posaient la question où est la ministre fédérale de l'Immigration, puis c'est entre autres un dossier de Radio-Canada, mais ça a fait parler jusqu'à l'Assemblée nationale au Québec. Je te pose la question, Sandra, où est Lena Metlege-Diab?
C'est une excellente question, puis je me la pose depuis longtemps. parce qu'on est habitué de voir nos ministres de l'immigration beaucoup plus impliqués, beaucoup plus publics. Et j'avais entendu, j'avais vu en fait des prestations, j'ai envie de dire désastreuses, de la ministre là, en période des questions, tu sais, comme pas à la hauteur du tout. Puis tu te dis, bon, on va prendre le temps de s'ajuster. Puis on l'a déjà vu au Québec des ministres qui avaient la misère à communiquer. Puis ben, en général, tu dures pas longtemps, là. Donc, c'est quelqu'un quand même, Mme Etlèche-Diable, qui est une ancienne ministre en Nouvelle-Écosse, comme qui a quand même un certain bagout, puis elle n'est pas là. Honnêtement, elle n'est juste pas là. Donc, y a-tu d'autres choses? Peut-être qu'il devrait le dire s'il y a autre chose. Mais sinon, comme moi, quand j'ai vu l'article là-dessus hier, je me suis dit, comme un, comme finalement, je ne suis pas surprise. Puis deux, yeux, je me suis dit, je vois le pire dans ce dossier-là. Je me suis dit, est-ce que c'est le gouvernement lui-même qui commence à se faire une job, puis de se dire, on va préparer le terrain pour un changement. Il y a des façons plus faciles de faire ça, puis c'est de juste faire un remaniement ça, au lieu de se s'auto de pelure, de banaliser. Donc, je pense que c'est en fait c'est un excellent travail journalistique qu'on voit ici, puis qui vient montrer un problème qui est vu et perçu depuis longtemps dans cette sphère-là. La ministre est absente, c'est vrai.
As-tu l'impression qu'on pourrait la tasser, tu sais, sans faire un grand remaniement puis bouger tout le monde, là, qu'on pourrait la prendre, elle, puis la tasser parce qu'elle fait pas la job?
Bien, quand ça devient public comme ça, ce qui devient difficile pour le gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas eu le leadership de le faire eux-mêmes. Et là, ça devient des pressions qui sont faites par l'opposition. On voyait notamment Mme Rempel Gardner au Parlement, qui est la critique conservatrice sur ce dossier-là, puis qui demandait comme à ce qu'elle soit. Est-ce qu'elle soit mise à la porte essentiellement. Puis là, donc, ça devient des jeux politiques. Puis si on la fait partir comme ça, ben c'est de reconnaître qu'on n'a pas eu notre leadership, puis qu'en fait, c'est l'opposition qui a gagné. Et c'est un peu, quand on est à l'opposition, d'obtenir la tête d'un ministre, c'est quelque chose qui est quand même valorisé. Mais là, je pense qu'il y a quand même du côté du gouvernement des devoirs à faire. Puis si on ne fait pas des ajustements rapidement, honnêtement, ils auront pas le choix. Maintenant, est-ce qu'on le fait avec juste une personne ou dans le cadre d'un remaniement plus grand? En général, on aime mieux faire un jeu de chaises avec quelques personnes plutôt qu'une seule.
T'as déjà été, Sandra, à l'interne d'un gouvernement fédéral. Tu sais comment ça se passe à l'intérieur. T'en as-tu vu souvent des ministres être dépassés par leur job? Parce que, tu sais, c'est ça le mot qui revient beaucoup, là, qu'elle a l'air dépassée. Il y en a trop, on l'a nommé, elle a peut-être pas les compétences. As-tu vu ça souvent arriver que là, on a placé quelqu'un parce qu'on pensait que c'était peut-être la bonne personne, mais que finalement, ça va trop vite pour cette personne-là?
Mais je trouve que c'est facile de dire que quelqu'un n'a pas les compétences, puis il faut faire attention. Est-ce que j'ai vu souvent du monde que je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là, que ce soit des députés, que ce soit des secrétaires parlementaires ou des ministres? En général, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. Des fois, le fit avec le ministère n'est pas nécessairement le bon, tu sais, au niveau du sujet. Puis des fois, c'est plus ça, tu sais, on va avoir un ministre qui a plus ou moins intérêt pour le sujet. Comme je disais, on a quand même quelqu'un qui a été ministre, qui a occupé plusieurs postes en Nouvelle-Écosse. Comme c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part puis qu'on a mis sur une chaise, c'est quelqu'un qui a des compétences à la base. Est-ce que le fit est pas là? Est-ce qu'il se passe d'autres choses dans sa vie? Je le sais pas, mais elle ne vit pas dans l'écosystème, elle ne vit pas dans la sphère publique. Sont-ils en train de préparer une super réforme? T'sais, si c'est le cas, s'il y a quelque chose, il faudrait que son équipe communique. Donc, il y a de son côté à elle, probablement un manque de leadership ministériel. T'sais, il y a une déconnexion, c'est clair. Je ne vais pas dire comme tout est beau, Madame la Marquise, là, ce n'est pas le cas. Mais aussi le bureau du premier ministre, dans ce genre de cas-là, normalement, va pouvoir avoir la main un peu plus lourde puis dire OK, chef de cabinet, OK, l'équipe de communication. Puis, elle n'est pas toute seule, là. Elle a normalement des secrétaires parlementaires, il y a d'autres députés. Comme, il y a un travail d'équipe qui peut se faire quand tu as un candidat qui va être un peu plus faible en communication pour faire sortir d'autres joueurs et pour faire de l'engagement avec les parties prenantes. Tu sais, les parties prenantes, dans ce cas-là, justement, on voyait notamment le Congrès national ukrainien, comme tu sais, des groupes qui ont quand même des éléments très importants à revendiquer, très sensibles. Comme il faut que ce monde-là puisse parler. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être d'accord, mais il faut qu'ils puissent aller parler puis partager leurs préoccupations. Puis là, ça ne se fait pas. Fait qu'il devrait y avoir d'autres joueurs qui embarquent pour venir faire un peu une soupape à cette pression-là. Puis la ministre, ben, on la gère au moment opportun. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il va falloir qu'ils donnent un tour de comme il va falloir qu'ils viennent resserrer la chose, là.
Sandra Aubé, on entend que les libéraux continuent d'essayer de charmer certains conservateurs pour les faire sauter à clôture en arriver à un gouvernement majoritaire, ils vont-tu réussir de cette façon-là où on est encore peut-être sur le bord de repartir en élection fédérale? On dirait qu'on entend de tout dans les dernières semaines. Il y en a qui pensent que les, entre guillemets, menaces d'élection, là, c'est derrière nous, puis on va y arriver autrement au gouvernement majoritaire avec des partiels et tout ça. Il y en a, puis tu sais, je regardais GLCN dans le studio, puis il y a quelques instants, on avait encore un super avec un questionnement. Est-ce qu'on s'en va bien? Est-ce qu'on prépare le terrain à des élections fédérales? On dirait qu'on entend de tout.
Oui. Bon. Moi, il y a beaucoup de spéculation. Puis il faut toujours que moi, je mets ce bruit-là de côté. J'aime regarder les chiffres. Si je regarde les chiffres présentement au Parlement, OK, il y a 343 sièges. Donc, il y a 343 députés qui existent, ou postes de députés qui existent. On a trois députés, enfin, on a trois élections partielles qui doivent avoir lieu, qui doivent être déclenchées. Chrystia Freeland qui est partie. Bill Blair, qui devient notre représentant au Royaume-Uni. Donc ça, c'était deux anciens ministres libéraux, deux députés de Toronto. Puis il y a Tatiana Auguste à Terrebonne. Elle avait gagné par une voix. La Cour suprême a dit non, ça n'a pas bien été fait tout ça. Il faut avoir une nouvelle élection. Donc on va avoir trois élections partielles. Les libéraux, présentement, là, avec les trois transfuges, puis ces trois sièges libéraux-là qui sont ils sont à 169. Pour avoir 169 sièges. Là, j'inclus pas les trois sièges là, qui doivent aller en élection partielle. Donc, dans de l'hypothétique, si on se dit qu'il y avait trois élections partielles, puis que ces trois sièges-là étaient libéraux, ben là, on arriverait à 172. Et pour avoir une majorité, ça prend 172 sièges. Donc, si les libéraux sont capables d'aller faire ça, ils arrivent à leur majorité. Mais c'est une majorité courte parce que, t'as le président du Parlement, donc qui généralement ne vote pas, président libéral. Puis deux, si tu as quelqu'un qui part, qui est malade, qui meurt, qui décide de traverser, bien, encore une fois, tu retombes à ta minorité. Donc, c'est sûr que le travail pour faire passer, comme l'opération Charme, pour avoir de nouveaux libéraux doit être très forte. Puis ce qu'on entend, puis ce qu'on voit, et du côté des libéraux et du côté des conservateurs, c'est que lentement, on met en place des machines électorales pour aller faire les nominations dans des circonscriptions où, par exemple, on n'a pas de. Ben, où c'est des membres de l'opposition, où c'est des membres comme du parti au pouvoir qui sont là. Donc, on vient s'assurer qu'on va avoir des gens qui vont être prêts à aller en élection s'il y en a une qui est déclenchée. Quand on regarde les sondages, si on est un libéral présentement, on se dit, on aurait une possibilité d'avoir une majorité. En même temps, on ne déclenche pas une élection. En tout cas, la population, selon l'histoire, n'aime pas qu'on déclenche une élection juste pour aller chercher une majorité. C'est ce que les libéraux de Justin Trudeau avaient fait en 2021, puis ils se sont ramassés avec la même maudite affaire, un gouvernement minoritaire. Il faut faire très attention avec ça, comme chercher le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert pas en général. Puis si on est un conservateur présentement, on gagne à gagner du temps parce qu'on n'est pas dans la position qu'on aimerait présentement, puis on doit aller renforcer encore notre base parce que Mark Carney vient chercher jouer dans cette base-là. Fait que c'est très mathématique, là. Puis là, je parle pas du Bloc québécois, je parle pas des néo-démocrates qui, eux, sont en course à la chefferie. Fait que comme il y a bien des affaires qui se brassent, est-ce que c'est tentant d'aller en élection? Probablement. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher une majorité, les libéraux, sans cela? Possiblement.
En une minute, Sandra, pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, on dirait qu'on le voit pas énormément, du moins c'est mon feeling depuis quelques semaines. Est-ce que c'est juste mon impression?
Dans l'œil public, oui, on semble moins le voir. Là, aujourd'hui, on va le voir du côté de Toronto. Il s'en va donner un discours devant un parterre de gens d'affaires. Ce discours-là, doit porter notamment sur. Je pense qu'on va voir un pivot. On commence à voir un pivot au niveau du discours public, où on revient avec un Pierre Poilievre, peut-être plus premier ministrable, un discours où il viendra parler de l'importance de la souveraineté nationale et certains mots-clés qu'on a entendus dans les derniers mois aussi par rapport à être maître chez nous. Donc, je pense qu'on verra ça. Puis, M. Carney, M. Poilievre semblent s'échanger ces thèmes-là. Donc, on va voir ça. Ça va être intéressant de surveiller des éléments par rapport aux États-Unis. Ça va être intéressant de surveiller des éléments par rapport à la Chine potentiellement. Est-ce qu'il va parler des véhicules électriques? Est-ce qu'il va parler des voyages de M. Carney? Donc, à suivre. Ouais, mais un certain pivot. Puis après ça, M. Poilievre s'en va faire un petit voyage aussi. Donc, un changement. on a noté aussi, il est moins en période de questions. Il est là quand M. Carney est là, mais donc plus juste dans l'ajout parlementaire. Il faudra voir si dans le temps, c'est le genre de choses qui se mesurent dans le temps. Un, est-ce que son discours va obtenir un écho? Est-ce que ça va faire parler davantage? Est-ce que son positionnement va faire parler davantage? Après ça, ben, comment ça va se refléter éventuellement là, dans de l'intérêt de la population à voter pour son parti?
Sandra Aubé, vice-présidente Affaires fédérales chez TACT. Un gros merci, puis on se dit à la semaine prochaine.
Merci, bye.
Salut. Au retour, extrait de notre discussion de ce matin avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Beaucoup de dossiers policiers dans l'actualité aujourd'hui. Puis pour ça, ben, on fait appel à Roger, qu'on aime beaucoup.